Vous écoutez
RMC.
Très bon début de journée, vous êtes bien sur RMC et RMC Story, il est 8h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal avec Quentin Vinet.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Du remous après le vote à l'Assemblée nationale du projet de loi d'urgence agricole. C'était hier dans la soirée, tension dans le bloc central, tension au sein du gouvernement, vous allez tout entendre. En attendant ce soir au Sénat, le vote et sans doute l'adoption définitive de ce texte. Un nouvel incendie, et on va en parler cette fois en Vendée. 2000 vacanciers évacués à un camping hier soir, on va vous raconter ce qui s'est passé. Et on sera aussi dans le journal en Haute-Savoie, d'où repartira le Tour de France aujourd'hui en pleine polémique sur les contrôles antidopage réalisés en pleine nuit durant le week-end.
Le projet de loi d'urgence agricole est désormais entre les mains des sénateurs.
Alors ce texte promis par le gouvernement et qui fait tant débat, hein, même entre les agriculteurs, on l'entend depuis ce matin sur RMC, il a donc été voté dans la soirée à l'Assemblée, 296 voix pour, 224 voix contre, au terme d'une soirée qui a été complètement électrique, puisque le gouvernement a ouvertement été critiqué par des députés du Bloc central. C'est la question du stockage de l'eau et la réintroduction de deux pesticides, hein, qui est ouvertement contestée. Romain Cluzel, du service politique à RMC. La prochaine étape, c'est donc dès aujourd'hui, le vote au Sénat, et si vote il y a, le texte sera définitivement adopté.
Et ce vote des sénateurs, il ne fait aucun doute parce que de nombreuses mesures qui ont fait débat à l'Assemblée ont été introduites par le Sénat. C'est le cas par exemple de l'acétamipride, cet insecticide très controversé, défendu mordicus par le sénateur LR Laurent Duplon. Les sénateurs sont également à l'origine de plusieurs mesures sur la gestion locale de l'eau et l'influence plus grande des agriculteurs sur cette gestion. Pour autant, même si les sénateurs valident ce texte, il devra passer par le filtre du Conseil constitutionnel. Plusieurs groupes de gauche ont déjà prévu de saisir l'instance. Et puis un conseiller ministériel s'inquiète déjà de la réaction de l'opinion publique avec le retour de l'acétamipride.
Oui, c'est le fameux insecticide qualifié de tueur d'abeilles qui provoque des remous au sein même du gouvernement. Je vous le disais, la ministre de la Transition écologique, Monique Barbu, y était opposée. Pas celle de l'agriculture, Annie Genevard, qui salue le vote des députés dans un message ce matin sur ses réseaux sociaux.
Alors, est-ce que c'est une victoire pour les agriculteurs ou une catastrophe écologique? On en vous attend au 32-16 si vous êtes agriculteur. Notamment, vous venez témoigner. 32-16, le WhatsApp RMC 06 12 424 424. Ça tombe mal, hein, en plein été, les prix des carburants repartent et repartent fortement à la hausse.
Et c'est évidemment lié à la situation au Moyen-Orient où États-Unis et Iran ont à nouveau mené des frappes durant la nuit. Le gazole a pris 14 centimes en une semaine. Le sans-plomb lui a pris 9 centimes et repasse la barre symbolique des 2 euros le litre, hein, selon les chiffres du site internet carbu.com. Alors dans ce sens-là, la répercussion est immédiate à la pompe, avec des incidences sur la route des vacances, nous dit Tiffaine Dubuard.
Dans cette station d'autoroute, le prix du gasoil atteint même les 2,30 euros le litre, une hausse à laquelle ne s'attendait pas Alex, automobiliste.
Le prix est assez exorbitant quand même. On s'est dit, ça y est, ça redescend, ça va durer un petit moment, ça réaugmente et on ne sait pas combien de temps, on ne sait pas jusqu'où ça va aller.
Les gros rouleurs doivent donc s'adapter, c'est le cas de Bénédicte, elle utilise quotidiennement sa voiture.
Tant pis, je vais faire des petits pleins plus fréquemment, dès que je me déplace en station-service. Je dois être à 90 euros le plein, je peux pas. Non. C'est pas possible.
Pour partir en vacances, cette responsable en ressources humaines avait prévu de parcourir 700 km. Mais avec l'augmentation du budget essence, elle n'exclut pas de chambouler toute son organisation.
Si on peut s'arranger pour emmener les enfants avant, ben on le fait en transport en commun, plutôt en train. Mais sinon, ça fait 2 allers-retours, c'est ingérable au niveau du prix.
Avec les prix actuels du gasoil, son aller-retour Paris-Toulouse pourrait ainsi lui coûter jusqu'à 250 euros.
Alors ça aussi, c'est le feuilleton de l'été rythmé par les incendies. Et hier soir, c'est le département de la Vendée sur la côte atlantique qui en a fait les frais. 2000 personnes donc évacuées d'un camping au Sable d'Olonne en raison d'un feu de végétation. Luc Calobert, vous avez des précisions?
Oui, le feu a démarré au bord d'une route départementale dans une zone de végétation très sèche et poussée par un vent fort. Il a progressé très vite en direction d'un grand camping 5 étoiles et la menace a été prise très au sérieux, explique le colonel Martin Boutier, directeur départemental adjoint des pompiers de Vendée.
Très rapidement, le camping a été sous les fumées, ce qui a nécessairement inquiété un petit peu la population qui se trouvait dans ce camping. Il y a 2200 personnes qui se trouvaient dans le camping. Nous avons décidé de l'évacuation des 2200 personnes du camping de manière préventive. Nous les avons dirigées vers une salle communale pour qu'ils puissent être en sécurité, donc à proximité du camping, le temps de l'intervention des sapeurs-pompiers.
C'est grâce à l'intervention de plus de 120 pompiers à plusieurs largages, dont un avion Dash, que le feu a pu être fixé peu avant 22h. Hier soir. Les occupants du camping ont été autorisés à revenir sur place. Au total, 13 hectares ont été brûlés, mais heureusement, aucun dégât majeur, seulement de la végétation.
Alors, je précise qu'il y a 5 départements qui sont au niveau le plus élevé pour le risque d'incendie, des départements près de la Méditerranée, notamment le Var, où le feu de Draguignan qui a ravagé 200 hectares un dimanche est désormais fixé depuis hier soir. Un autre feu ravage en ce moment la montagne dans les Hautes-Alpes, dans une zone escarpée au sud de Briançon. Un hameau a été évacué de façon préventive et 50 hectares de forêt ont déjà brûlé.
Et voici une autre conséquence des canicules à répétition. On manque de fruits de mer sur les étals.
Et pourquoi ? Parce que les températures de l'eau explosent avec les canicules. On parle de canicules marines jusqu'à 29 degrés pour la mer en Méditerranée. C'est bien plus que la normale. Le constat est le même sur la côte atlantique et dans la Manche. Comme ici dans la baie de Saint-Brieuc où les producteurs de moules disent déjà à notre correspondant Martin Lange que leurs rendements sont divisés par 4 cet été.
Depuis plus d'un mois, Guillaume Hurtaud a débuté sa récolte sur les bouchots, ces pieux en bois sur lesquels grandissent les moules. Mais la production n'est pas au rendez-vous.
Il manque des moules en fait. Quand on pêche une branche de 100 mètres, c'est notre référence. Sur une année normale, je fais 20 bacs de moules. Là, j'en fais 8 ou 9. Quand on les lave, en plus, elles sont toutes petites.
Une situation inédite qui met en danger l'entreprise familiale.
Je suis en moyenne 200-250 tonnes. Cette année, je vais peut-être sortir 50-70 tonnes. On va tenir l'année, mais il faudrait que l'année prochaine soit une bonne année. Et ça, on n'en sait strictement rien.
En cause notamment le plancton qui se raréfie, encore des prédateurs comme les araignées de mer qui arrivent de plus en plus tôt. Des bouleversements qui pourraient être liés à la hausse de la température de l'eau. Anthony Juin est le président du syndicat mythylicole de la baie.
La pompe là en ce moment à 24 degrés, donc on a bien 2-3 mois d'avance. Oui, forcément il y a un impact sur la façon de se nourrir, sur la nourriture elle-même pour la moule. Nous quand il fait très chaud on n'a pas envie de manger. Je pense qu'elles c'est pareil. Elles ne vont pas grossir. Le tout additionné fait une saison catastrophique.
D'autres zones de production sont aussi touchées. Dans la baie du Mont-Saint-Michel, l'AOP moule de Bouchot qui représente 20% de la production française n'a pas encore débuté sa saison, faute de moules suffisamment grosses.
C'est au bord du lac Léman que le Tour de France reprend aujourd'hui au lendemain de la journée de repos. Ça repart avec un contre-la-montre de 26 km entre Évian et Thonon-les-Bains avec une montée de 9 km pour commencer puis une descente qui est décrite comme dangereuse. Un parcours qui convient normalement au prodige français Paul Sexas à l'aise en contre-la-montre et qui est ce matin à une trentaine de secondes du podium au classement général. Ça reprend donc sans le Danois Jonas Vingegaard, vous savez bien, qui a abandonné après une chute dimanche au niveau d'un rond-point. Chute qui fait beaucoup parler depuis parce qu'il avait été réveillé la nuit précédant l'étape par un contrôle antidopage en pleine nuit. Pareil pour le maillot jaune Tadej Pogacar. L'agence qui mène les contrôles se justifie. Et alors elle explique, Clément Brossard pour RMC, que si elle mène des contrôles en pleine nuit, c'est pas pour rien et surtout elle en a le droit.
Oui, un tel test n'est pas anodin, nous fait savoir l'Agence internationale du contrôle. Afin d'effectuer cette opération à une heure si tardive et la rendre légale, l'agence a dû la faire valider par un juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, juge qui ne donne son aval qu'en cas de risque de soupçon grave, de dopage imminent ou de disparition de preuves. Ce contrôle nocturne a surpris l'ensemble du peloton, un peloton inquiet de savoir qu'il peut être contrôlé en pleine nuit, perturbant ainsi son sommeil au cœur d'une compétition si énergivore qui a vu Jonas Vingegaard abandonné suite à une chute au lendemain de ce contrôle. Si la situation suscite forcément le doute, l'agence de contrôle internationale a expliqué à RMC hier soir qu'il ne fallait pas interpréter ce test comme l'assurance d'une violation des règles antidopage.
Bon, on vivra ça cet après-midi, ce contre-la-montre sur RMC dans l'intégral tour. Et ça, c'est l'image de la soirée. Vous allez forcément l'avoir passée aujourd'hui, celle de la foule monstrueuse hier soir à Madrid, en Espagne, pour le retour des champions du monde espagnol. Avec une parade, puis une cérémonie. Écoutez.
Nous sommes les champions du monde. Vive le roi et vive l'Espagne.
Alors la presse, c'était Rodri, le milieu de terrain, meilleur joueur du tournoi que vous entendiez. La presse espagnole parle de 2 millions de personnes dans les rues de la capitale Madrid. C'est énorme pour Madrid qui compte 3,5 millions d'habitants, un peu plus de 6 millions si on comprend la banlieue. Ça fait une personne sur trois, grosso modo, qui assistait à cette cérémonie donc de sacre pour célébrer les champions du monde. En parallèle, je vous signale que la FIFA a ouvert une procédure disciplinaire sur les incidents qu'on a pu voir dimanche en fin de match après la finale, impliquant notamment l'Argentin Leandro Paredes, qui avait agressé deux joueurs espagnols après le coup de sifflet final.
C'était le journal de Quentin Vinet sur RMC. Il est 8h10 et vous continuez de réagir sur le WhatsApp RMC 06 12 424 424. Victor, on lit tous les messages avec beaucoup de réactions ce matin sur la perspective d'une éventuelle vaccination obligatoire des soignants contre la grippe.
Oui, et on a d'abord Christian qui nous dit que c'est une très bonne idée, selon lui, de devoir obligatoirement être vacciné pour ces professionnels de santé. La vaccination pour ces gens qui la refusent est assez suspecte. Je n'irai pas voir quelqu'un, un soignant qui ne se vaccine pas et qui serait amené à me soigner. On a aussi des messages sur cette loi d'urgence agricole votée et cette réintroduction de certains pesticides. On a par exemple Jean-François qui nous dit « Le monde agricole a besoin de payer ses factures, a tellement besoin de payer ses factures qu'il est prêt à utiliser des produits potentiellement dangereux et à mettre en œuvre des politiques de gestion de l'eau à la va-vite. C'est de la politique agricole à la petite semaine. » Voilà, très peu de gens convaincus dans les messages, notamment Yannick, par cette réintroduction des deux pesticides interdits en France, mais autorisés en Europe.
Sur WhatsApp, vous nous écrivez au 06 12 424 424 par téléphone, c'est le 3216. Vous connaissez le chemin et vous avez la parole pour réagir à tous les sujets d'actualité sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans un instant, l'économie avec Manu Le Chypre. On va parler du coût de la canicule qui pèse déjà sur notre croissance. Et puis, le Sénat qui a enterré son propre rapport sur le burn-out. 200 pages, 5 mois de travail, 39 recommandations jamais publiées. Restez dans un tiroir. Bonjour Christelle Mazza.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes avocate en droit de la fonction publique, en droit pénal au travail. Pour vous, c'est une censure, tout simplement, de la réalité de la souffrance des Français au travail. C'est votre parti pris. On en parle dans un instant et ça vous fait réagir. 32-16. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Il est 8h15, merci d'être avec nous ce matin sur RMC et sur RMC Story. C'est Apolline Matin qui continue, on parle du burn-out, la souffrance au travail. C'est une crise sanitaire cachée, voilà ce qui était la conclusion d'un rapport de 200 pages rédigé par des sénateurs après 5 mois d'enquête et d'audition. Sauf que ce rapport a terminé à la poubelle avec ses 39 recommandations. Début juillet, les sénateurs ont tout simplement voté contre sa publication. Bonjour Christelle Mazza.
Bonjour.
Vous êtes donc avocate en droit de la fonction publique, en droit pénal au travail. Vous aviez été vous-même auditionnée dans le cadre de cette mission d'information menée par les sénateurs. Votre parti pris ce matin, c'est de dire que c'est une forme de censure de la réalité de la souffrance des Français au travail. Ça veut dire que vous êtes d'accord avec ce terme utilisé par les sénateurs. C'est une réelle crise sanitaire.
Ah oui, je suis tout à fait d'accord à la fois avec le terme de crise sanitaire et de censure pour ce qui concerne ce rapport, oui.
Pourquoi crise sanitaire ?
Crise sanitaire parce que les taux de souffrance au travail pour les informations qu'on peut avoir, parce qu'évidemment il y a une invisibilisation générale hein, dans le travail public et privé, montrent un taux d'épuisement professionnel extrêmement alarmant, avec de très nombreux aussi passages à l'acte, des compensations psychiques graves. L'OMS d'ailleurs parle d'un chiffre de 1,37% du PIB. Au-delà d'une crise sanitaire, c'est un phénomène social et politique qui appartient au débat public et qui ne doit en aucun cas être à ce point invisibilisé. Je voudrais rajouter d'ailleurs que finalement, avec beaucoup de cynisme, le fait de vouloir cacher ces informations permet aux citoyennes et citoyens français de comprendre à quel point le travail est un objet politique et appartient à notre débat collectif.
Alors, on n'a donc pas la totalité du rapport, mais certaines de ces conclusions ont fuité. On sait que dans les conclusions, le rapport pointait la dégradation, ce que vous dites, hein, la dégradation d'un ensemble de facteurs liés à l'environnement au travail, les pratiques managériales, les réorganisations permanentes, et pointait aussi que tous les secteurs, en réalité, sont touchés. Ça veut dire quoi ? C'est du cadre supérieur jusqu'à l'ouvrier. En fait, il n'y a pas vraiment de... la souffrance au travail, elle est partout.
Oui, et ça, c'est très important de le souligner parce que le discours presque de propagande politique pour masquer quelque chose de majeur là qui est à l'œuvre, c'est de dire que finalement, ce sont les plus vulnérables du travail qui craquent. Est-ce que c'est à nous de payer pour ces personnes qui ne tiennent pas la cadence ? Or, ce que l'on constate, c'est totalement faux. C'est qu'on a une souffrance majeure, une vraie crise auprès des cadres, des chefs d'entreprise, petites, moyennes, même grandes entreprises. Ça touche absolument toutes les catégories sociales. Et ce qu'il faut comprendre, c'est la décorrélation qu'il y a entre l'économie, c'est-à-dire la rémunération, et le sens au travail, c'est-à-dire l'engagement émotionnel et même psychique qu'on va mettre au travail. Donc, ce n'est pas une question d'argent, on va en faire une simple question économique. C'est une vraie question politique. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre, parce que continuer d'invisibiliser ces questions, le système craque, y compris les personnes, et on se retrouve avec un scandale que manifestement une certaine politique veut invisibiliser. Et j'irai même plus loin, c'est que deux jours après le refus de publication de ce rapport, le président de la République, Emmanuel Macron, a nommé 4 experts technocrates pour réfléchir sur notre modèle social. C'est-à-dire en pleine campagne présidentielle, puisque le rapport doit être remis en décembre, on aura une appropriation de ce débat qui appartient au peuple, qui doit être débattu au Sénat, à l'Assemblée nationale et même en dehors. Et c'est à l'ensemble des travailleurs, c'est-à-dire une grande partie des Françaises et des Français, de débattre de ces sujets qui ne doivent pas être monopolisés.
Certains des sénateurs qui ont expliqué leur vote de rejet de ce rapport en expliquant que ce rapport était trop orienté, ne donnait pas suffisamment la place aux employeurs. Vous vous dites qu'il y a une réelle volonté de masquer les choses. Comment vous comprenez cette frilosité ?
Écoutez, c'est un argument extrêmement grossier. C'est des gens qui n'ont probablement pas lu le rapport ni entendu les auditions. Il y a absolument l'intégralité des représentants du travail, que ce soit employeurs, salariés et même fonction publique. Et ça, je prêche un peu pour ma paroisse, parce que c'est vrai que la fonction publique est littéralement invisibilisée dans le débat. Et là, il y a eu un vrai effort de compréhension sur ce qui se passe dans le secteur public. Tout le monde a été entendu. On veut en faire quelque chose de basiquement idéologique, là où il y a un sujet qui rassemble tout le monde. C'est-à-dire que cette souffrance au travail est un sujet qui rassemble. Interrogez n'importe qui dans un dîner autour de vous. Il y a énormément de gens qui souffrent au travail, quelle que soit, encore une fois, la catégorie socio-professionnelle.
Les sénateurs dans ce rapport demandaient à ce que l'épuisement et les souffrances psychiques soient reconnus comme maladies professionnelles. Ça n'est pas le cas aujourd'hui ?
Alors, ça fait partie justement du débat politique qu'il faut avoir à ce sujet. Aujourd'hui, il n'y a pas de catégorie spécifique qui attribue, par exemple, le burn-out, l'épuisement professionnel à une maladie psychique. On peut le reconnaître, et ça se fait un peu au cas par cas, devant les organismes sociaux publics ou privés. Et en fait, ce qui est important, et ça, je comprends parfaitement la démarche, c'est de mettre des mots sur les choses dans les catégories de maladies professionnelles possibles. À partir du moment où vous nommez les choses, vous comprenez que le phénomène existe. Cette invisibilisation, elle est problématique parce qu'on essaye encore une fois de faire croire que le burn-out, ça n'existe pas ou que c'est lié à la fragilité, vulnérabilité de la personne. Or, c'est un phénomène structurel.
Merci beaucoup. Une forme de censure, voilà votre parti pris ce matin après le rejet de ce rapport sénatorial qui donc n'a pas été publié, rapport sur le burn-out et la souffrance au travail. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Christelle Mazza, avocate en droit de la fonction publique et en droit pénal au travail. Merci beaucoup. Il est 8h20 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
C'est l'heure de l'économie. L'économie avec Manu Le Chypre. Manu, combien les canicules vont-elles nous coûter et vont-elles coûter à la croissance ?
Plus que jamais. La France a déjà essuyé 3 épisodes caniculaires depuis le début de l'année, soit une trentaine de jours. Songez qu'en 2023, en août 2023, la canicule avait duré 16 jours seulement et avait amputé la croissance de 0,2 points sur l'année. Alors, certes, on a déjà revu en baisse la croissance pour 2026. Bercy nous dit que ce sera 0,7 et pas 0,9. L'INSEE nous dit aussi 0,7. Mais ça, c'était en grande partie avant les dernières fortes chaleurs. Et donc, il faut s'attendre sans doute à de nouvelles révisions à la baisse. Les experts d'Allianz nous disent que le coût de ces canicules sera au moins de 0,3 points de PIB. Ça fait une dizaine de milliards d'euros. Ce serait la période caniculaire la plus coûteuse donc de l'histoire. Surtout qu'il faut rappeler qu'en 2003, la canicule, elle était intervenue en août, qui est un mois d'activité faible, alors que là, on a eu canicule en mai, en juin et en juillet. Alors, on connaît les effets sur les entreprises. Production perturbée par la chaleur, avec des pannes, voire des incendies, des salariés moins efficaces, des transports perturbés, que ce soit le train, les pannes de voitures, le trafic aérien. On connaît aussi les effets sur la consommation. Moins d'achats de vêtements, de produits alimentaires, moins de restaurants. La hausse de la production d'électricité et la fréquentation des cinémas ou des centres commerciaux ne compensent pas ces effets négatifs.
Et la grande inconnue, c'est l'agriculture.
Absolument. En 2003, l'agriculture et la sylviculture avaient été fortement affectées, avec des baisses de rendement allant de 20 à 30% pour les grandes cultures céréalières. Là, les fortes chaleurs de 2025, paradoxalement, avaient eu moins d'impact, sauf pour la viticulture. La fréquence et la durée des canicules provoqueront cette année sans doute beaucoup plus de dégâts que l'an dernier. Rexecode calcule qu'une baisse de 10% de l'activité agricole cette année coûterait à elle seule jusqu'à 0,2 points de croissance. Pour ça, on aura la réponse à l'automne. L'autre mauvaise nouvelle qu'on a dès maintenant, c'est que dans toutes les prévisions que je vous ai citées, on tablait sur une fin rapide du conflit au Moyen-Orient et retour des prix du pétrole à un niveau raisonnable. Et ben, manifestement, il va falloir s'habituer encore pas mal de semaines, voire de mois, à vivre avec un pétrole cher.
Oui, parce qu'on l'a vu hein, cette nuit, hein, ça se tend à nouveau au Moyen-Orient. On termine avec notre point quotidien sur justement les prix de l'énergie qui ne sont pas bons. Hein.
Alors, le gazole, 2,14€ le litre hier, c'est 14 centimes de hausse en une semaine. Sur le samplon 95, la hausse est moins forte, 2,02€ le litre, 5 centimes de hausse en une semaine. Le pétrole est stable depuis 2-3 jours à $89 le baril, mais ce qu'on n'a pas assez dit et ce qui inquiète le plus, c'est la flambée du gaz. Le gaz, on est remonté à 57€ le mégawattheure. On était à 40€ fin juin. On a pris presque 20€. C'est un record depuis le 23 mars. La hausse du gaz, au moment où on commence à reconstituer les stocks dans les pays de l'hémisphère nord, c'est vraiment, vraiment ce qu'il va falloir surveiller dans les prochains jours.
Et on va continuer, bien sûr, de le surveiller, vous le savez, sur RMC. Merci Manu. Allez, après ces mauvaises nouvelles, on va se détendre un peu. On vous a gardé le meilleur d'Arnaud Demanche.
Ah, il fait chaud, Apolline, Victor, Géraldine, Élise, j'ai chaud. Tout le monde a chaud. Apo, faut que vous invitiez Maud Bréjon, de toute urgence, la porte-parole du gouvernement, histoire qu'elle brasse de l'air, comme d'habitude, et dans nos locaux.
Le gouvernement est pleinement mobilisé, hein, et nos concitoyens, en conscience,
Oh, ça fait du bien. Continue, Maud. Bon courage au pauvre gars de la météo sur BFM TV, parce que nous, on a Géraldine Demory, mais on est sympa avec elle, on la laisse au frais, dans le bureau, dans la clim, alors que sur BFM, c'est des sadiques. Guillaume Fleury, vous êtes en exclusivité sur le toit de la Tour Montparnasse où on a retrouvé des pointes à 54 degrés parce qu'il n'y a pas d'ombre et que c'est du zinc. Alors quel temps fait-il ? Il fait chaud. D'accord, eh bien on refera un point dans une heure pour savoir s'il fait toujours chaud. Restez bien là-haut. Et je peux faire la météo en plateau si vous voulez. Alors la direction me dit dans l'oreillette, non, ce sera moins rigolo. Demain, vous irez étudier peut-être les conditions de travail dans les hauts fourneaux à Florange. Mais il va faire super chaud. Bah vous nous direz, hein, nous on sait pas, c'est vous la météo.
D'ailleurs, l'Iran empêche toujours les navires américains de traverser le détroit d'Ormuz, le temps a changé.
C'est toujours bloqué. C'est toujours bloqué. Eh ouais.
Et voilà.
Quelle histoire là-bas alors, hein, ça n'en finit pas, va falloir tenir jusqu'à juin avec des vannes sur le détroit qui est bouché. D'ailleurs, j'ai lu un article épouvantable, Apolline, affreux, terrible. Savez-vous, Apolline, qu'une cargaison de coucougnettes est bloquée dans le détroit d'Ormuz? Et oui, c'est absolument authentique, c'est vrai. Alors c'est quoi les coucougnettes? Oui, c'est une confiserie, une spécialité de peau. C'est un palace de Dubaï qui a commandé 15 palettes de coucougnettes pour les offrir aux invités. Alors, le PDG de la confiserie, Christian Coucougnette.
Non.
Si,
non.
C'est le fils de Gilbert Coucougnette, le fondateur. Il est pas content. Il a dit, un pays étranger nous demande nos coucougnettes sur un plateau et on n'est pas capable de leur donner. Alors que le Quai d'Orsay fait quand même ça tous les jours.
Oh.
Et c'est l'occasion d'un petit quiz très rigolo.
Ah.
Cette spécialité culinaire française et rigolote existe-t-elle?
Oh là là.
Attention,
la beauté de nos régions.
Coucougnette, pas coucougnette. Le fion vendéen.
Oui,
c'est un flan. Le panifou de Provence, un fromage de nos régions.
C'est un mini.
Le trou du cru, un fromage de nos régions.
Oui, il existe.
Les vieux croutons du Luxembourg.
Non.
Si, ça existe, c'est le Sénat.
Ça se mange pas, a priori.
Ça se mange pas, mais ça sent un peu le vieux fromage affiné quand même. Les zézettes de Sète.
Oui,
ça existe. Le zizi du Bruel.
Non.
Les glaviots de Clermont-Ferrand. Alors, c'est comme les huîtres, mais ils ont pas la mer.
Non.
Non, ça n'existe pas. Les nombrils de moine.
C'est
une sorte de macaron et ça existe. Voilà. Les tétons de la reine Margot.
Non.
Si, ça existe.
Ah bon,
c'est des chocolats.
D'accord, j'aime
les tétines du Bourbon des deux Siciles et des trois Fromages.
Non.
Les croûtes de lépreux du Beaujolais.
Non.
Alors, c'est des tuiles au vin.
Ah bon?
Non, ça existe pas. Non, je déconne. Mais j'ai quand même déposé le brevet.
Niveau marketing, moi, je la vendrais pas comme ça.
Non, mais j'ai déposé le brevet. On va en cuisiner avec Victor Pourchet. On va essayer. On vous en amènera lundi prochain.
Allez, ça, voilà. Ce week-end.
Bon appétit. Bon petit déjeuner.
Merci.
Arnaud Demange, que vous retrouvez quand vous voulez en podcast sur rmc.fr et sur l'appli RMC. 8h27. Dans un instant, la météo et un nouveau journal avec à la une cette soirée électrique à l'Assemblée nationale sur le vote de la loi agricole. Et puis je vous attends au 32-16 sur ce sujet agricole, sur le manque de saisonniers aussi dans l'hôtellerie, dans la restauration. Est-ce qu'on se donne les moyens de bien accueillir les saisonniers? On avait tout à l'heure un auditeur qui nous disait moi je ne cherche même plus à travailler l'été, ça n'est pas assez bien payé. Qu'en pensez-vous? Vous êtes professionnel, vous êtes saisonnier, vous venez témoigner au 32-16 et ce sera le choix de la rédaction. Et puis ça fait débat, le RN qui promet d'interdire le voile dans l'espace public par référendum si Marine Le Pen est élue présidente de la République. Est-ce un retour aux fondamentaux pour le RN? Et puis surtout, juridiquement, est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est constitutionnel d'interdire le voile partout dans l'espace public? On en parlera avec le politologue et constitutionnaliste Benjamin Morel à 8h40 et là aussi, vous intervenez au 32-16. A tout de suite. RMC 8h30.
RMC Apolline Matin.
Tout de suite un nouveau journal avec Clément Gouitz. Bonjour Clément.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. La loi d'urgence agricole qui prévoit la réintroduction de deux pesticides controversés adoptés par les députés. Un vote qui a créé des tensions au sein du bloc central. C'est une piste sérieusement étudiée par le gouvernement, rendre la vaccination contre la grippe obligatoire pour tous les enseignants. Le ministère de la Santé étudie les conditions de sa mise en œuvre. Les Français vont-ils enfin briller sur la grande boucle? Début de la troisième semaine de course aujourd'hui et toujours aucune victoire tricolore.
La loi d'urgence agricole a donc franchi une étape décisive.
Un texte adopté cette nuit par les députés avec une mesure polémique, la réintroduction dérogatoire de deux pesticides interdits en France, mais autorisés en Europe. Un vote sous tension à l'Assemblée nationale qui a également créé des divisions au sein du bloc central, Romain Cluzel.
Soupir de soulagement pour Jean-René Cazeneuve après le vote favorable hier soir. Le député Renaissance le rappelle, l'acétamipride ne sera autorisé que sur avis de l'autorité de sécurité sanitaire.
En aucune manière, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est les réintroduire. On donne simplement le dernier mot à l'inceste.
Pourtant, son collègue du même groupe, Éric Botorel, a voté contre le texte. Il refuse tout retour de cet insecticide qui a fait l'objet d'une pétition largement signée l'été dernier.
On ne peut pas faire l'impasse sur le fait qu'une mobilisation citoyenne qui aboutisse à plus de 2 millions de signatures, c'est quelque chose qui ne veut rien dire. Si l'acétamipride est de nouveau présente, et a priori ça a l'air de plaire à Mme Genevard, c'est le choix du gouvernement.
L'opposition est encore plus nette à gauche. L'écologiste Benoît Biteau dénonce un texte contre-productif pour les agriculteurs.
Je vous prédis que dans moins de 6 mois, les agriculteurs sont encore dans la rue parce que ce texte-là ne va rien régler, va même continuer de les enfoncer dans une ornière dont ils n'arrivent pas à se sortir.
Et comme les écologistes, les socialistes et les insoumis ont d'ores et déjà annoncé qu'ils comptent saisir le Conseil constitutionnel.
La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, se dit très satisfaite de ce vote. Un texte selon elle, qui contient des mesures attendues, concrètes et précises pour les agriculteurs. Le texte doit désormais être examiné aujourd'hui par le Sénat et sera ensuite définitivement adopté.
Autre sujet sensible et qui va sans doute vous faire réagir ce matin au 32-16, la vaccination obligatoire contre la grippe pour les soignants.
Le gouvernement ouvre la porte à cette mesure après l'avis favorable des autorités sanitaires. Une mesure qui ne fait pas l'unanimité sur le terrain. Et Lucas Laubert, le gouvernement étudie les conditions de sa mise en œuvre.
Le ministère de la Santé doit d'abord déterminer d'ici les prochaines semaines qui sera concerné par cette obligation de vaccination contre la grippe, quels soignants et dans quel établissement. Autre question en suspens, comment s'assurer qu'elle soit bien respectée? La concertation sera conduite avec les représentants des professionnels et des étudiants ou encore les fédérations sanitaires, puis tout cela devra faire l'objet d'un décret. Aucune sanction ne sera appliquée la première année d'application, précise le gouvernement. La Haute Autorité de Santé recommande de déployer en priorité cette obligation vaccinale dans les EHPAD et les unités de soins de longue durée, là où les résidents sont les plus âgés et en contact répété avec les soignants, avant un déploiement progressif dans les autres lieux concernés, les hôpitaux par exemple. Elle rappelle que la grippe a fait près de 12 700 morts l'hiver dernier.
TikTok, Instagram, Snapchat, bientôt interdits aux moins de 15 ans. Le Parlement pourrait adopter aujourd'hui une loi inédite en Europe avec une entrée en vigueur dès la rentrée.
On en vient à la politique et le Rassemblement national qui revient sur son idée d'interdire le voile dans l'espace public.
Le parti de Marine Le Pen veut désormais limiter sa proposition à l'intérieur des bâtiments publics et se dit prêt à un référendum en cas de victoire en 2027. On est loin, Thomas Becker, de la ligne défendue en 2022 qui visait aussi l'espace public.
Oui, d'un côté, il y a la doctrine historique du FN puis du RN de Marine Le Pen. Interdire le port du voile partout, y compris dans la rue. Désormais, le RN imagine un référendum. Il porterait sur une loi plus générale de lutte contre l'islamisme qui comprendrait l'interdiction du port du voile dans les bâtiments publics. Plus d'interdiction pure et simple, parce qu'au sein du parti, la mesure crispe interroge, y compris Jordan Bardella ou la députée Laure Lavalette. C'est répulsif dans l'opinion publique, ajoute un député RN. Pour un autre, c'est clair, le référendum est une manière d'enterrer l'interdiction du voile parce qu'il y a de bonnes chances qu'il ne voit jamais le jour, ajoute ce même député. Référence aux contraintes juridiques qui pourraient empêcher Marine Le Pen, si elle est élue, de poser directement la question aux Français.
Alors, faut-il interdire le voile partout dans l'espace public, symbole de l'islamisme, dit le Rassemblement national. Qu'en pensez-vous? Vous réagissez au 32-16, on vous écoute, on vous lit aussi les messages WhatsApp, c'est sur le 06-12-424-424. On va y revenir après le journal avec notre invité Benjamin Morel. Il est 8h35 et le Louvre rouvre une salle emblématique.
La galerie Apollon, cambriolée en octobre dernier, accueillera demain de nouveau le public. Mais ces vitrines resteront vides, annonce le président du musée dans une interview ce matin au Parisien. Et Marion Gauthier, le Louvre veut en faire sa galerie des glaces.
Oui, une galerie d'apparat, toute d'or et de stuc. Le président du Louvre veut retrouver le palais sous le musée, redonner leur place aux décors muraux, peints et sculptés. Il allait de toute façon manquer quelque chose dans la galerie d'Apollon, lance Christophe Leribaud, référence aux joyaux de la couronne dérobés, pas encore retrouvés, mais il veut y croire. Les autres bijoux, les vases taillés dans des pierres précieuses, tous les objets jusque-là exposés quitteront cette immense salle voûtée pour une chambre forte, sans fenêtres, ultra sécurisée, mais pas encore inventée. Il faut trouver l'endroit et il devra être grand pour accueillir notamment la couronne de génie abandonnée par les braqueurs dans leur fuite. Plus célèbre qu'avant, elle devrait attirer les foules. Le président du Louvre espère attirer les mécènes car le chantier de rénovation, la création de nouvelles salles et d'une entrée est déjà estimé à 1 milliard d'euros.
La nouvelle menace ce matin de Donald Trump, l'Iran paiera le prix fort pour chaque soldat tué au Moyen-Orient. Son homologue iranien parle d'une guerre totale face aux États-Unis. Cela fait 10 jours de suite que l'armée américaine pilonne Téhéran. Téhéran riposte également.
Le Tour de France reprend la route et on attend toujours une victoire française.
Oui, après une journée de repos, le Tour de France est de retour avec un contre-la-montre de 26 km entre Évian-les-Bains et Thonon-les-Bains en Haute-Savoie. Et pour cette troisième et dernière semaine de course, on espère tous voir un Français remporter une étape. Diane Carlotti.
Le long des routes du Tour, les supporters français n'attendent que ça.
Allez les Français, on veut une victoire d'étape.
Allez les Bleus, allez les Bleus, allez les Bleus. Et on veut l'étape.
Ouais, allez les jeunes, on veut l'étape. On veut un Français.
Mais face à l'ogre Pogacar, déjà vainqueur de 4 étapes sur l'édition 2026, difficile d'exister pour Valentin Paré-Peintre et ses compatriotes.
Rien n'est facile au Tour de France, c'est que des champions qui gagnent des étapes. Si on veut faire un bon truc au Tour de France, c'est toujours compliqué, il n'y a rien de gratuit.
L'an passé, les tricolores avaient attendu la 16e étape et la victoire de Valentin Paré-Peintre. Peintre en haut du Mont Ventoux pour débloquer le compteur de la France. Alors Joris Delbove ne veut rien lâcher jusqu'au bout.
Je pense que la dernière semaine peut être pas mal pour les Français, surtout mercredi, jeudi. Je pense qu'on peut peut-être avoir un Français qui gagne.
Un souhait partagé par Jérôme Pinault, consultant RMC Sport, qui croit notamment en Paul Sexas et Lenny Martinez pour performer.
Plus on va tenter, plus on va y arriver. C'est pas impossible que Paul ou Lenny aillent chercher une étape de montagne. Voilà, on compte sur eux aussi. Il y a de l'avenir, il y a du temps, il y a de l'espoir.
L'espoir d'éviter un Tour de France sans victoire française, une contre-performance qui n'est plus arrivée depuis 1980.
Intégral Tour, c'est dès 14h sur RMC. L'Espagne a accueilli hier ses héros. Hein. Près de 2 millions de personnes ont envahi les rues de Madrid pour célébrer la deuxième étoile et apercevoir Yamal et ses partenaires brandir le trophée de la Coupe du Monde. Autre ambiance en Argentine, des milliers de supporters sous l'appui hier. Et certains joueurs manquaient l'appel, notamment Messi qui a publié sur son compte Insta sa déception de ne pas avoir décroché cette Coupe du Monde.
Le quintet, c'est à Vichy à 18h30.
Et le pronostic de la Dream Team, leur favori est l'As, leur outsider. Et le 3, Selvo.
Clément Gouitz pour le journal, il est 8h38.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et dans un instant, le choix de la rédaction. Il manque 65 000 saisonniers dans l'hôtellerie et la restauration. En reportage dans un instant. Et puis le Rassemblement National qui veut faire trancher les Français sur l'interdiction du voile. Un référendum en 2027 si Marine Le Pen est élue. Est-ce que c'est légal, crédible? Quelle stratégie politique y a-t-il derrière? On en parle avec le politologue et constitutionnaliste Benjamin Morel. Et avec vous, bien sûr, au 32-16. A tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Il est 8h42 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. C'est l'heure du choix de la rédaction avec ce matin Pierre Bourgès. Bonjour Pierre. Vous êtes notre correspondant en Gironde et on parle des saisonniers. Ce matin, il en manque plusieurs dizaines de milliers, 65 000, nous disait notre invité tout à l'heure, cet été, dans les hôtels et dans les restaurants. Manque de main-d'œuvre, situation compliquée pour de nombreux employeurs. D'autres ont pu quand même démarrer leur saison au complet. Problème, certains patrons doivent faire face à des démissions en pleine saison. Illustration à Lacanau avec vous, Pierre Bourgès.
Guillaume pensait démarrer sereinement sa saison en cuisine, mais ça n'a pas duré très longtemps.
Un jeune qui me dit, c'est bon, parfait, on valide la saison après sa période d'essai, etc. On met tout en place, on crée le contrat, on avance, etc. Puis le lendemain matin, même sans me prévenir à moi, il vient juste dire à notre chef cuisinier que finalement, il ne fera pas la saison avec nous, et je ne suis même pas au courant, et c'est la veille de la saison, donc je dois trouver des solutions rapidement.
Scénario similaire dans le restaurant d'à côté. Laurent est responsable de l'assiette à Lacanau sur le front de mer. Il a perdu un serveur et un cuisinier depuis début juillet.
Du jour au lendemain, sans prévenir, les gens s'en vont. Maintenant, il y a une démission qui est rapide. Du jour au lendemain, les gens partent sans trop savoir des fois pourquoi.
Le nouveau cuistot est arrivé hier.
Allô, en cuisine ? J'ai une profiterole, s'il vous plaît.
Une situation inédite pour la gérante Agnès Brand.
Et nous, ça fait 4 ans qu'on est installé et c'est vraiment la première année où il y a autant de turnover. Ils ne veulent pas s'investir, donc ils font un mois. Si ça ne leur va pas, ils s'en vont. Alors que je vais faire la vieille, mais avant, c'était vraiment, on s'investissait sur une saison, c'était 6 mois. Et même si c'était dur, on restait. Alors que là, ils s'en vont.
Décision totalement assumée par certains saisonniers comme Mélissa. Cette étudiante de 22 ans a signé un contrat chez McDonald's pour cet été.
J'ai commencé à partir du mois de mai, une fois que j'ai passé mes partiels, et j'étais censée terminer fin août.
Censée seulement, puisque sa lettre de démission est déjà prête, Mélissa partira donc début août.
Je trouve que la charge de travail, elle était trop importante pour moi, pour un job d'été. Après, j'ai déjà reçu mon salaire du mois de mai, du coup, qui n'était pas à la hauteur de mes espérances, on va dire.
À cela s'ajoutent des conditions de travail difficiles, expliquent d'autres saisonniers démissionnaires que j'ai pu rencontrer. Victor, qui travaille sur la plage, pense aussi à rompre son contrat plus tôt pour mieux s'organiser pour l'année prochaine.
Ça m'arrangerait finalement de rentrer plus tôt pour me retrouver dans un cadre assez simple et où je me sens bien. Pour commencer à la recherche d'appartement pour l'année qui arrive et même la recherche de boulot en tant qu'étudiant pour l'année.
Reste à trancher entre démission et abandon de poste. Dans les deux cas, il n'aura pas le droit au chômage.
En reportage de Pierre Bourgès, correspondant RMC à Bordeaux. Anthony est avec nous au 32-16. Bonjour Anthony.
Oui, bonjour.
Depuis Saint-Palais-sur-Mer en Charente-Maritime. Anthony, vous avez vous-même été longtemps saisonnier, c'est ça ?
J'ai fait des saisons pendant 26 ans et les 10 dernières années en tant que chef de cuisine.
Et quels souvenirs vous en avez ?
C'est-à-dire qu'il y a 15 ans de ça, pour revenir à ce que disait votre correspondantrice à Lacanau, c'était vrai, c'est qu'en fait, quand on attaquait une saison, on était une équipe, on était une famille.
Ouais.
On ne se lâchait pas. On bossait 7 sur 7, parce que ça, faut le savoir, c'était du 7 sur 7 pendant 3 ou 4 mois. Et là, les dernières saisons, c'est que les jeunes, ça sort, ça n'embauche pas le matin, enfin, c'est pour assumer.
Ça veut dire que vous acceptiez aussi de travailler 7 jours sur 7, même si ça n'est pas forcément ce que dit le contrat et ce que dit la loi.
Mais ça faisait partie du jeu. Ça faisait partie du jeu, et puis on avait souvent des primes en fin de saison. Pour compenser tout ça, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Pour ça, des fois, moi, quand j'entends les 35 heures, ça me fait rire. 35 heures, on le faisait en 3 jours cet été. Hein.
Qu'est-ce qui a changé alors ? Est-ce que c'est les jeunes qui sont moins motivés ? On les a entendus. Ouais. Bon, il faut prendre une petite pause avant de reprendre les études, etc.
Non, c'est même pas ça.
Sont simplement moins motivés parce que les conditions se sont dégradées ?
Alors, je pense qu'il y a tous les deux. Il y a déjà, c'est que les jeunes, ils pensent tous qu'à faire la bringue, qu'à travailler. Donc déjà, le soir, ils vont se prendre des berles et puis le matin, ils viennent pas travailler. Donc ça, c'est insupportable. Et c'est pour ça aussi, moi, je comprends les patrons où après, ben, ils mettent des battes à l'air parce qu'ils savent que les mecs vont pas tenir. En fait, c'est un sac à viser, c'est un engrenage, quoi. Je comprends les patrons qui en ont marre de proposer des gros salaires pour des gens qui vont pas faire le job. Et à côté, ben, il y a des gens comme moi où on demandait des gros salaires parce qu'on connaît le travail. Mais à la fin, quand on arrive à 40, 41 ans, on en a marre, quoi.
Mais sauf qu'on a peut-être un peu plus envie de faire le job si on est mieux payé. Enfin, on peut aussi se dire ça.
Ça fait une carotte quand même. Oui. Mais il arrive un moment aussi, quand vous prenez de l'âge, vous pouvez plus vous enquiller des heures comme avant. Enfin, moi, personnellement, j'ai travaillé dans des grosses structures où c'était du 800, 1000 couverts jour. Il y a un moment donné, quand vous n'avez pas le staff avec vous, ça devient compliqué.
Ce sont des métiers, ce sont aussi des métiers difficiles. Hein. Merci beaucoup, Anthony, pour votre témoignage. Anthony, ancien cuisinier, ancien saisonnier. Merci beaucoup pour votre témoignage. 32-16, dans un instant, le Rassemblement National qui veut faire trancher les Français par référendum pour interdire le voile dans l'espace public. Est-ce que c'est possible, légalement? Et puis, quelle est la stratégie politique qu'il y a derrière? On en parle avec Benjamin Morel et avec vous au 32-16 dans un instant. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Vous êtes sur RMC et sur RMC Story, il est 8h49. On parle du voile. Faut-il interdire le voile islamique dans l'espace public? Le vice-président du Rassemblement National, Sébastien Chenu, a annoncé hier un référendum en cas d'élection de Marine Le Pen, estimant que ce voile, c'est un symbole de l'islamisme. Bonjour Benjamin Morel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes politologue, maître de conférence en droit public à l'université Paris-Panthéon-Assas, auteur de Crise politique, crise de régime, c'est chez Odile Jacob. Pourquoi le RN relance ce débat maintenant? Est-ce que c'est le retour aux fondamentaux de l'extrême droite avant la présidentielle?
C'est quelque chose que le RN propose depuis déjà un certain temps. Alors ça crée des tensions en interne du Rassemblement National, hein, cette affaire d'interdiction du voile dans l'espace public. Néanmoins, c'est pas quelque chose qui est une nouveauté, donc ça permet de marquer un petit peu l'actualité au cœur de l'été. L'objectif, évidemment, étant que ça vienne plutôt d'un lieutenant, en l'occurrence de Sébastien Chenu, pour que la candidate ne soit pas non plus engagée par cette proposition qui pourrait éventuellement fâcher une partie de l'électorat qu'elle vise.
Oui, c'est pas elle qui le dit, elle envoie Sébastien Chenu. Est-ce qu'on peut voir ça comme une sorte peut-être de ballon d'essai?
C'est sans doute un peu un ballon d'essai, puis si jamais Marine Le Pen a besoin d'élargir son électorat en disant que ce n'est finalement pas quelque chose qu'elle reprend à son compte, elle pourra. Et si au contraire elle a besoin de mobiliser sa base qui est plutôt abstentionniste et qui peut répondre à ce genre de stimuli, eh bien à ce moment-là elle pourra assumer cette proposition, donc ça lui laisse une amplitude stratégique, ce qui fait que pour l'instant ça n'engage à rien et que c'est plutôt malin.
C'est vrai que c'était dans le discours du RN depuis longtemps, mais moi, en regardant le programme écrit de Marine Le Pen, que ce soit celui de 2022 ou celui de 2017, j'ai pas retrouvé cette proposition écrite noir sur blanc et encore moins celle d'un référendum. C'est quand même un pas de plus, là.
C'est un pas de plus. Encore une fois, c'est plutôt un ballon d'essai. Donc, il faut également raison garder sur une proposition qui, au milieu de l'été, est annoncée par Sébastien Chenu. Mais en effet, ça ouvre la voie à une question plus large, en fait, où le Rassemblement National propose des référendums sur des sujets qui sont des sujets structurants pour montrer que sur ces sujets, il est capable d'aller assez loin, mais qu'il l'est à condition de demander son avis aux Français.
Restez bien avec nous, Benjamin Morel. On va parler de la faisabilité aussi de la chose. On est d'abord au 32-16 avec Sandrine. Bonjour Sandrine.
Bonjour.
Bonjour et bienvenue Sandrine sur RMC. Vous nous appelez du Val d'Oise. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée d'interdire le voile dans un premier temps dans les services publics, mais à terme, hein, et Sébastien Chenu le dit bien, à terme l'idée c'est de l'interdire partout.
En fait, moi je trouve que c'est très hypocrite de toujours parler que du voile. C'est-à-dire que moi, ce que je pense, c'est qu'il faudrait faire un référendum, à la limite s'ils le souhaitent, mais pour interdire tout signe extérieur d'appartenance religieuse. C'est-à-dire que soit on va au bout de la laïcité. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on n'a jamais été clair sur ça veut dire quoi être un pays laïque. Est-ce que ça veut dire on fait ce qu'on veut où on veut, ou est-ce que ça veut dire ça fait ce qu'on veut chez soi? Et à partir du moment où on fait ce qu'on veut chez soi, dans ce cas-là, plus aucun signe religieux ne doit être toléré en extérieur. Pas uniquement le voile pour surfer sur les peurs de l'islamisme, parce que bien évidemment, n'y a que des islamismes qui portent le voile, bien
sûr. Sandrine, Benjamin Morel va vous répondre. Et j'en profite pour doubler la question, Benjamin Morel. Est-ce qu'en fait, c'est possible d'interdire uniquement le voile ou est-ce que, comme le dit Sandrine, il faudrait interdire tous les signes religieux dans l'espace public?
Déjà, la question, c'est est-ce que c'est possible juridiquement? Et ça, c'est pas tout à fait évident. Quand vous prenez notamment la convention EDH, etc., si on respecte le droit européen, voile ou pas voile, il est en effet assez difficile. Quand on a interdit le voile intégral, l'a fait non pas pour des raisons religieuses, on l'a fait pour des raisons d'ordre public, considérant que la dissimulation du visage pouvait représenter un problème de sécurité. Et si on est passé par ce détour, qui en fait était quand même un peu hypocrite, c'est que les solutions juridiques pour l'interdire sur une base religieuse étaient très réduites. Donc, quoi qu'il arrive, il y a un risque juridique à minima au regard du droit européen et également au regard du droit constitutionnel.
Ça veut dire qu'il faudrait modifier la Constitution ?
Alors, ça veut dire qu'a priori, on aurait au moins un problème avec la Convention européenne des droits de l'homme, mais que potentiellement, en effet, mais on n'a pas de jurisprudence du Conseil constitutionnel pour que je puisse vous l'affirmer, on peut avoir en effet des sujets de constitutionnalité. Ensuite, est-ce qu'on peut faire ça par référendum ? Ça pose un autre type de question, parce que normalement, ce qui relève du pénal, alors là, on parle bien de pénaliser un acte, en l'occurrence porter le voile dans l'espace public, ça relève pas du champ du référendum. Donc si vous couplez ça avec la réalisation d'un référendum, ça vous fait beaucoup, beaucoup de lignes rouges a priori à franchir.
Ce qu'on comprend derrière ce que vous nous dites, Benjamin Morel, c'est que c'est surtout une proposition très politique et on n'oublie pas qu'on est en campagne présidentielle. Merci beaucoup Benjamin Morel, politologue, maître de conférence en droit public à Panthéon Assas à Paris. Je remercie également Sandrine qui était avec nous au 32-16. Dans quelques minutes, ce sont les grandes gueules qui s'installent déjà avec Olivier Truchot. Bonjour Olivier.
Salut Sébastien, bonjour à tous. Les grandes gueules se préparent à débattre pendant 3 heures de l'actualité. Emmanuel Devilliers, Abel Boyi, Barbara Lefebvre. Ce matin, on va revenir sur le souhait du gouvernement de rendre obligatoire le vaccin contre la grippe pour tous les professionnels de santé. Et pas seulement les médecins. Par exemple, les personnels qui travaillent dans les EHPAD, il faudrait les vacciner obligatoirement. Et on sait que tout le monde n'est pas d'accord sur cette obligation. Est-ce que c'est liberticide ou au contraire, c'est la meilleure chose à faire pour protéger notamment nos aînés? Eh bien, j'attends vos appels au 32-16. Vous êtes nombreux, professionnels de la santé, à écouter les grandes gueules chaque matin. Venez débattre à partir de 9h sur RMC. RMC Story.
Les grandes gueules dans quelques secondes. Et moi, je vous dis à demain. Belle journée.